Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Et jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Saint Jérôme, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci vous. Alors, nous progressons dans l'explication de l'Évangile selon Saint Matthieu. Aujourd'hui, on va terminer le chapitre 1. Donc, nous en sommes sur le polycopier, à la page 8, deuxième paragraphe. Donc, ça correspond, chapitre 1 d'Évangile de Saint Matthieu, verset 18. La naissance du Christ eut lieu ainsi. Marie, sa mère, étant mariée à Joseph avant qu'ils habitassent ensemble, il se trouva qu'elle avait conçu du sein de l'Esprit Saint. Alors, je vous expliquais la dernière fois l'importance de bien considérer que l'être Seigneur Jean-Marie et Saint Joseph étaient mariés. Faire attention parce que le sens du mot. Des mots peuvent changer dans la traduction française entre les temps, entre les époques historiques. Donc, même dans les traductions que j'aime pas beaucoup, dans une bonne Bible qui s'appelle la Bible de Fillon, donc au premier mot il traduit fiancé, que la Sainte Vierge était fiancée, et quelques versets plus tard, il va dire Joseph, son époux, était un homme juste. Alors, il faut savoir, il était fiancé ou pas fiancé. Donc en fait, c'est que pour beaucoup de gens, quand surtout par rapport à la Sainte Famille, parce qu'il parle de l'union entre Marie et la Sainte Vierge Marie, Marie et Saint Joseph, pardon, eh bien, quand ils utilisent le mot fiançailles, pour eux, ils veulent dire mariage. Mais en français, ça a quand même deux sens différents. Donc il vaut mieux dire qu'ils étaient mariés. Donc j'ai expliqué ça la dernière fois. Alors, les pères de l'Église expliquent bien, donc on est chapitre, donc page 8 dans le polycopier, deuxième paragraphe. Donc les pères de l'Église insistent sur le fait que l'union familiale qui existait entre Marie et Joseph, l'union matrimoniale, ils étaient vraiment mariés, attention, même si tous les deux étaient sous vœu de virginité, a un symbole, donc il y a un sens symbolique derrière. Beaucoup de pères disent que l'union de ces trois personnes, Jésus, Marie et Joseph, représentait la Sainte Trinité. Donc le Père éternel est à Joseph, ce que le Saint-Esprit est à la très sainte Vierge Marie, parce qu'elle a conçu le Saint-Esprit, et le Christ évidemment se représente lui-même en tant que Fils de Dieu, le contrôle, les trois personnes de la Sainte Trinité, dans l'unité de substance. Donc le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Bon, c'est une comparaison, attention, la comparaison n'est pas raison. Il est évident que ce n'est pas la même chose. Donc, on n'avait pas le droit de dire qu'il y a une identité entre la Sainte Trinité et la Sainte Famille, puisque on ne peut pas dire que Joseph soit Marie et Marie soit notre Seigneur Jésus-Christ, d'accord ? Mais c'est une comparaison, on a le droit d'utiliser une comparaison de ce genre, et les pères de l'Église l'ont utilisé souvent. Donc de même, disent-ils qu'il y a dans la Sainte Trinité l'essence de la Déité en trois personnes, c'est-à-dire l'essence de la substance divine dans les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Ainsi, ici nous avons un mariage et une parfaite famille consistant à trois personnes, Joseph, Marie et le Christ. Donc de même, disent-ils que dans la Sainte Trinité, le Père engendre spirituellement le Fils, inspire le Saint-Esprit. Ainsi, la très sainte Vierge Marie, de façon spirituelle, mais non charnelle, car par le pouvoir du Saint-Esprit, a conçu et nous a donné le Christ. Bon, là, les Pères utilisent des mots un peu compliqués qui correspondent aux relations intra-trinitaires. Vous savez que la Sainte Trinité est un mystère, donc il ne faut pas chercher à vouloir systématiquement comprendre tous les détails de la Sainte Trinité. Cependant, celui qui a le mieux pioché ce mystère, c'est saint Thomas d'Aquin. Vous savez qu'à la fin de son traité de la Sainte Trinité, donc il a écrit, le Christ lui est apparu dans sa cellule en lui disant: Thomas, tu as bien écrit de moi, que veux-tu pour ta récompense? Qu'est-ce que vous aurez répondu, vous? Lui, il a répondu: rien d'autre que vous, Seigneur. Donc Saint Thomas est allé très loin. Alors les pères de l'Église avaient déjà commencé un peu à piocher la chose, mais encore une fois, c'est toujours la même doctrine, mais avec les temps qui passent, les temps historiques qui passent, donc il y a un approfondissement de la doctrine catholique. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a une adaptation de la doctrine catholique au temps, pas du tout comme disent les modernes, c'est tout à fait le contraire, c'est toujours la même doctrine, mais un approfondissement de l'explication. Donc Saint Thomas d'Aquin, pour donner tout un cours sur la Sainte Trinité, bon, pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements là-dessus, ben, qu'ils aillent voir le traité sur la Sainte Trinité de Saint Thomas dans la Prima Pars, et qui est déjà sur le site d'Amari dont je m'occupe, donc vous avez toute une partie sur la Prima Pars, sur le traité sur la Sainte Trinité. Bon, je résume simplement pour expliquer un des mots qui est utilisé ici par les pères de l'Église, l'aspiration. Donc en fait, Saint Thomas explique qu'il peut y avoir une différence des personnes, des trois personnes, parce que dans le sein même de la substance divine, de la Sainte Trinité, il y a des relations entre les personnes. Et ces relations provoquent une diversité de personnes. C'est-à-dire que du Père au Fils, il y a une relation de paternité, du Fils au Père, il y a une relation de filiation. Alors, c'est bien la même route. Si vous allez de Paris à Brest, ou de Brest à Paris, vous utilisez la même route, mais la direction n'est pas la même. C'est pas pareil d'aller de Paris à Brest que d'aller de Brest à Paris. Et là, c'est un peu pareil, c'est une comparaison. C'est-à-dire que la paternité, la relation qui existe depuis le Père au Fils, n'est pas la même que la filiation, qui est la relation du Fils au Père. Donc, ça fait déjà deux relations, la paternité et la filiation. Ensuite, les deux personnes, le Père et le Fils, vont, à cause de cet amour mutuel qui est en eux, vont, Saint Thomas va utiliser un terme spécial, vont spirer le Saint-Esprit. Bon, c'est un verbe un peu traduisible, c'est pas un verbe français en fait, l'aspiration, mais c'est le terme utilisé en latin, et l'aspiration, ça veut dire, c'est en quelque sorte comme une émanation, en quelque sorte, de l'amour qui existe entre le Père et le Fils. À cause de cet amour qui existe entre le Père et le Fils, il y a une troisième personne qui existe, non pas dans le temps, parce qu'elle a toujours existé, attention. Donc c'est la troisième personne, la Sainte Trinité. Donc le Père et le Fils vont spirer le Saint-Esprit. Ça veut dire que Père à Fils, paternité, Fils à Père, filiation, et Père et Fils vont spirer ensemble le Saint-Esprit. Et donc du Père et du Fils au Saint-Esprit, il y a une troisième relation, qui est la relation de spiration. D'accord ? Et le Saint-Esprit va répondre à cet amour, toujours dans le sein de la très Sainte Trinité. Et... c'est ce qu'on appelle la procession. Il procède du Père et du Fils. Donc il y a quatre relations. Paternité, filiation, spiration, procession. Et c'est grâce à l'existence de ces quatre relations intra-trinitaires qu'il peut y avoir une différenciation de personnes. Alors encore une fois, c'est une comparaison avec la Sainte Famille. C'est pas la comparaison, elle est importante. D'accord ? Alors, cette Sainte Famille est aussi très importante pour nous. C'est pas simplement un exemple dogmatique. Pour les pères de l'Église, c'est ici également un exemple pour nous, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à tirer de cette, si vous voulez, de l'ambiance en quelque sorte qui devait être régnée dans la Sainte Famille. Hein. Imaginez un peu ce que ça devait être la Sainte Famille avec le Fils qui est incarné, donc notre Seigneur Jésus-Christ, enfant, bébé d'abord puis enfant, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité et en même temps parfaitement homme. La Troisième Vierge Marie comme mère réelle de notre Seigneur Jésus-Christ et Saint Joseph pour chef de famille. Donc, évidemment, il y a un ordre dans la sainteté. Notre Seigneur Jésus-Christ très largement au-dessus de la Sainte Vierge Marie et au-dessus de Saint Joseph, bien sûr. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ va obéir parfaitement à ses parents. Et il y a une grande élévation aussi de la sainteté de la Très Sainte Vierge Marie, largement au-dessus de la sainteté de Saint Joseph, et pourtant, la Très Sainte Vierge Marie va obéir à Saint Joseph. Saint Joseph est véritablement père de famille. Et donc, je dis souvent aux pères de famille qui ont parfois tendance aux époux, qui ont parfois tendance à être un peu trop direct avec leurs épouses, d'essayer de penser un petit peu au genre de relation qu'il devait y avoir entre la Sainte Famille, entre la Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph. Il ne faut pas transformer ça en une espèce d'eau de rose, c'est pas ça du tout, mais il y avait, Saint Joseph était réellement chef de famille, tout en ayant un respect incroyable pour son fils adoptif, son Seigneur Jésus-Christ, et pour son épouse. Donc là on touche à un mystère. Donc, tropologiquement, c'est ce qu'on appelle le sens tropologique. Rappelez-vous que le sens tropologique, c'est le sens moral. Donc, le premier, c'était le sens symbolique, ça correspond à un sens, on pourrait dire, un sens allégorique, c'est une allégorie en quelque sorte. Et là, c'est le sens tropologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le thème qu'on étudie, la page d'Écriture 5, représente ce que nous devons faire pour nous. C'est ça le sens tropologique, c'est le sens moral. Donc, tropologiquement, que les maris et les épouses imitent la très sainte Vierge Marie et que Saint Joseph dans la pureté, la sainteté, la patience et la charité, supportant ensemble les difficultés. Donc, ils ont déjà eu bien des difficultés aussi, ne serait-ce que pour faire tourner la fuite en Égypte, se retrouver dans un pays étranger, en plus avec une langue qu'ils ne possédaient sans doute pas. Donc c'est pas évident. Et bien pourtant, ils ont accepté tout cela. Alors, attendez, où j'en suis là. Il y avait donc dans la famille de Joseph, Marie et le Christ, les plus extraordinaires concordes, amour, révérence. Et il manque une virgule là, tiens, il faut que je corrige ça. Entre amour et révérence, il y a une virgule que j'ai oubliée, je vais la corriger dans le. Bon. Amour, révérence, humilité, piété, aide mutuelle. Non seulement les plus petites chamailles étaient absentes, mais également la plus légère suspicion de choses mauvaises. Ainsi, une telle famille a-t-elle mérité d'avoir le Christ, le Saint des Saints pour enfants. Ce que disent les. Que disent là les pères. Eh bien, c'est sûr que ça doit un petit peu guider les rapports qui doivent exister dans une famille normale ici-bas. Bon, évidemment, hein, entre Saint-Joseph et... c'est ce que nous disent souvent les mamans. Oui, mais vous savez, c'était facile pour la très sainte Vierge Marie d'être patiente avec notre Seigneur Jésus-Christ qui devait obéir au doigt et à l'œil. Moi, j'ai une bande de garde-manques qui font toute la journée comme ils veulent et il faut se bagarrer tout le temps pour les faire obéir, ces gamins. Alors, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil, mais ça doit quand même nous inspirer. Bon, c'est pareil pour la façon de parler d'un époux, surtout à son mari. C'est une chose que je suis obligé d'insister de plus en plus dans la retraite, parce que c'est un peu une tradition mauvaise dans les milieux de tradition pour les maris, pratiquement, de considérer que puisqu'ils sont chefs de famille, ils ont pas droit de vie de mort sur leur épouse, mais presque quoi. Et ils considèrent leur épouse un peu comme... ils la traitent de façon un peu comme si elle était une esclave. Ça, c'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout, parce que même s'il est chef de famille, même s'il est roi de la famille, il y a une reine. Et la reine lui aura un respect mutuel, le respect mutuel qui devait exister de façon extraordinaire entre Saint-Joseph et sa Vierge Marie. Et ce respect mutuel doit exister également entre un époux et son épouse. Très souvent, on entend des épouses se plaindre justement que les époux n'ont pas vraiment pas de respect pour leurs épouses, manquent de respect plutôt pour leurs épouses. Donc il faut faire attention, d'accord. Alors, autre note des pères de l'Église intéressante, les opérations de la Sainte Trinité ad extra, hein, c'est-à-dire c'est toutes les opérations extérieures. C'est-à-dire en référence avec l'univers des choses créées, sont communes aux trois personnes divines. Pendant la création du monde, on peut l'approprier, par exemple, au Père, mais en fait, on pourrait dire que Dieu le Père ou Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit ont créé le monde. C'est la même chose, d'accord? Ce qu'on appelle une appropriation. Il est préférable de dire par le Saint-Esprit, hein, car comme le pouvoir est approprié au Père et la sagesse au Fils, ainsi l'amour, la bonté et la grâce, qui brillent tout particulièrement dans l'incarnation, sont attribués au Saint-Esprit. Ça, encore une fois, c'est une appropriation, une attribution. C'est-à-dire qu'on attribue au Saint-Esprit l'amour. Et on attribuera au Père la puissance, au Fils la sagesse. Bon, ce sont des appropriations que font les pères de l'Église, mais qui sont un petit peu dangereuses. Faire attention à ce qu'on dit là-dessus, parce qu'on a trop de tendance à séparer les choses. Mais j'ai remarqué, c'est un peu une tendance. Nous avons d'abord, donc, l'amour c'est pour le Fils, la puissance c'est pour le Père, et la sagesse c'est pour. L'amour c'est pour le Saint-Esprit, la sagesse au Fils, la puissance au Père. Mais en fait, le Père a aussi le Saint-Esprit. Le Père a aussi la sagesse comme le Fils, et également l'amour qui est attribué au Saint-Esprit. Donc il faut faire un petit peu attention. Ces attributions sont des façons de parler pour nous faire pénétrer un peu dans le mystère. Mais c'est un peu dangereux parce que, encore une fois, faire attention à ça. Le Père est parfaitement Dieu. On a trop tendance, évidemment, parce qu'on essaie de comprendre la Sainte Trinité avec notre petite limite intellectuelle humaine. Mais le Père est parfaitement Dieu. Le Fils est parfaitement Dieu et le Saint-Esprit est parfaitement Dieu. Donc le Père n'a pas besoin en soi du Fils pour être Dieu. Et il n'a pas besoin du Fils pour être parfait. Donc les relations intra-trinitaires sont éternelles. Donc quand on explique par exemple qu'on explique les quatre relations, paternité, filiation, spiration, procession, certains catholiques ont tendance à considérer ça dans le temps. Alors, donc au début, il y a eu la paternité, puis avec l'arrivée du Fils, c'était la filiation qui est apparue, et puis ensuite, à cause de cet amour entre le Père et le Fils, il y a la relation de spiration et la réciproque, qui est la relation de procession. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est que les quatre relations ont toujours existé. Dieu étant Dieu, il y a toujours eu en Dieu la paternité, la filiation, l'inspiration, la procession. C'est pour ça qu'on parle d'une filiation éternelle.
Et
Une
vous?
paternité éternelle, inspiration éternelle, procession éternelle. Il n'y a pas de temps, d'espace-temps pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu.
Exactement. Et
Par
vous?
contre, il y a un temps pour notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité.
On peut dire que sans ego, mais indivisible.
Par exemple, mais c'est sûr que les termes sont un peu dangereux. On a vite fait dire des hérésies en matière de la Sainte Trinité, mais en fait, c'est que cette Sainte Trinité est un mystère tellement, tellement élevé, il est absolument impossible pour nous de comprendre. On peut l'approcher un peu, mais ça reste un très grand mystère. Je pense que les pères de famille, surtout, devraient méditer un peu cette union. Ce rapport qui devait exister, de charité extraordinaire qui devait exister entre Saint Joseph et son épouse. J'imaginais un peu la prière du matin, la prière du soir là-bas, les rapports, les relations dans les repas, les activités professionnelles de Saint Joseph qui était charpentier. Donc, dès que notre Seigneur Jésus-Christ était en âge de travailler avec Saint Joseph, il a dû l'aider à l'atelier, à l'établi sans doute, je ne sais pas. Donc, et en même temps, il faut faire attention, ça c'est une deuxième tendance qui est fréquente chez les traditionalistes, c'est vouloir concrétiser beaucoup trop les choses. Donc il y a des gens qui courent les bouquins, les apparitions plus ou moins farfelues pour essayer de savoir tous les petits détails de la vie de Saint-Joseph, de la vie de l'enfant Jésus pendant son enfance. Et bien ça, c'est pas bon du tout. Le bon Dieu n'a pas voulu qui quoi que ce soit sur sa petite enfance dans l'évangile. Il y a une raison pour ça. Sauf le passage de notre Seigneur Jésus-Christ qui a 2 temps, pas 12 ans, c'est tout. Donc il n'y a rien d'autre. Et toutes ces apparitions qui prétendent expliquer tous les détails des relations entre la Sainte Vierge et Saint Joseph, entre les Saint Joseph et notre Sainte Vierge Marie d'une part et notre Seigneur Jésus-Christ d'autre part, sont des fausses apparitions. On voit très bien par exemple. Une des raisons fondamentales pour lesquelles je suis très opposé à Maria d'Agra, surtout à Maria à Val d'Orta, et un peu à Maria d'Agra, non pas en tant que personne morale, mais dans certaines choses qu'elle explique qui sont trop sentimentales. Maria Val d'Orta, c'est une catastrophe au niveau sentimentalisme, c'est justement, on veut trop humaniser, si vous voulez, le Christ. Dans la personne du Christ, il y a deux natures, une nature humaine, une nature divine, donc il faut faire attention. Et d'éviter de diviniser tellement la personne du Christ qu'on oublie qu'il est homme, et d'humaniser tellement la personne du Christ qu'on oublie qu'il est Dieu. Donc il faut les deux. Vous voyez, dans Maria Val d'Orta, entre autres, il y a des tas d'explications sur l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne peut pas être de Dieu, parce que bon, on n'a jamais voulu qu'on connaisse ces choses-là. Vous voyez, et on veut trop expliquer avec des termes humains. Et c'est là qu'il faut avoir le courage de s'abriter derrière. Et à la divinité, et à notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas tout comprendre, pas comprendre l'incarnation, on ne peut pas comprendre la rédemption, on ne peut pas comprendre la Sainte Trinité. Ça, c'est très important, surtout quand on parle aux jeunes convertis. Hier, j'ai eu la grande grâce de pouvoir baptiser encore 2 jeunes adultes, 16 et 17 ans, un jeune homme et une jeune fille. Eh bien, c'est très important pour eux, souvent, de savoir s'arrêter. Donc même s'ils ont un grand désir de bien connaître la catéchisme, il faut bien la faire comprendre. Attention, il y a des mystères. Donc un petit sermon que j'ai donné pour le baptême, c'est de réexpliquer ça en disant, attention, vous gardez ces trois obligations d'étudier le devoir de magistère, de vous sanctifier le devoir de ministère et de vous gouverner pour éviter de maintenir dans votre vie des occasions de péché, des relations avec des gens qui peuvent vous faire du mal à votre âme. Alors, verset 19, Matthieu chapitre 1, verset 19, page 8. Joseph, son époux, était un homme juste. et ne voulant pas la diffamer, résolut de la renvoyer secrètement. Alors ici, le mot juste, vir justus, le mot juste a en fait la signification, le, veut signifier la sainteté personnelle. Homme juste, ça veut dire homme saint. Hein. Ne voulant pas la diffamer, résolut de la renvoyer secrètement. Donc, Saint Joseph n'était pas au courant de la venue de l'ange, donc du mystère de l'incarnation qui s'était établi donc dans sa propre famille, dans le sein de son épouse. Et évidemment, lorsqu'elle est rentrée de sa visite à sa cousine Elisabeth, elle restait plusieurs mois là-bas, donc évidemment sa grossesse se voyait, parce que Notre-Dame, la grossesse est miraculeuse au début, miraculeuse à la fin, dans le sens qu'elle s'est retrouvée enceinte sans l'intervention d'un homme, miracle. Et ensuite, à la fin, au moment de la naissance à Bethléem, le 24 décembre au soir, donc l'enfant a quitté le sein matériel sans briser sa virginité. Le saut de sa virginité, c'est encore un miracle. Mais ceci dit, la grossesse elle-même s'est constituée de façon normale. Elle a porté l'enfant normalement pendant 9 mois. Bon, il y a quand même quelques différences. Entre autres, notre Seigneur Vierge Marie n'avait absolument pas de douleur, par exemple, à cause du fait qu'elle portait un enfant. Alors, donc Saint Joseph, voyant la Très Sainte Vierge Marie enceinte, au retour de sa visite chez Sainte Élisabeth, donc elle se posait pas mal de questions. Alors les pères ne sont pas tous d'accord pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. C'est un peu un mystère là aussi, on pourrait se demander, mais pourquoi la Très Sainte Vierge Marie n'a pas parlé à Saint Joseph? Bon, peut-être qu'elle s'est dit tout simplement, mon Dieu, c'est pas les anges qui lui manquent, hein. Il y en a plusieurs milliards, il m'a envoyé un ange, il peut envoyer un ange aussi à Saint Joseph. C'est là où on voit l'exquise délicatesse d'âme de notre Seigneur Jean-Marie, l'humilité. Il aurait pu dire à Saint Joseph, je devine quoi, il vient de m'arriver, j'ai reçu un ange du ciel, Gabriel qui s'appelle, et voilà, ben c'est moi, je suis la plus belle. Alors maintenant, je loue tout le monde, hein, c'est moi la mère de Dieu. Ben non, elle n'a rien dit, c'est incroyable. Elle se tait alors qu'elle devient la mère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle veut... Elle a ce respect du mystère que nous, on a malheureusement pas du tout, ou très peu. Alors, les pères de l'Église ne sont pas d'accord entre eux pour savoir ce que veut dire cette phrase. Ne voulant pas la diffamer, il résolut de la renvoyer secrètement. Alors, il y en a qui pensent que Saint Joseph a pensé que, pourrait plus penser que notre Seigneur Vierge Marie était infidèle et que donc il n'a pas voulu qu'elle soit lapidée pour infidélité et donc il a décidé de la renvoyer secrètement. Mais cette explication m'a jamais satisfait du tout. En fait, c'est que Saint Joseph, qui connaissait parfaitement bien l'Écriture sainte, savait très bien que c'était le temps de l'apparition du Messie. Et donc, quand il a vu que son épouse revenait enceinte, il a tout de suite dû se douter que la Très Sainte Vierge Marie, son épouse, était donc celle qui avait été choisie pour devenir la mère de Dieu. Et vraisemblablement, il a complètement paniqué, humainement parlant, en disant, mais tout le monde va croire que c'est mon fils, alors que ce n'est pas mon fils. Je ne suis que le père putatif. Alors, l'Église laisse libre dans l'interprétation des pères, encore une fois, parce qu'il n'y a pas union entre les pères de ce côté-là. Chaque père, les pères de l'Église qui disent différentes choses.
Il y en a aussi par rapport à la lapidation.
Voilà, c'est ça. On va voir tout ça. Après, il y a d'autres textes sur ce sujet. Mais... j'aime bien l'explication d'Origène là que j'ai mis justement, j'ai choisi cette explication parce qu'elle est belle. Il voulait la renvoyer, dit Origène, un grand-père de l'Église, parce qu'il s'estimait indigne d'approcher ce grand mystère qui s'était opéré en elle. Vous voyez, donc c'était pas elle qui l'éloignait de lui, c'est lui qui s'éloignait d'elle en la renvoyant secrètement. Vous voyez. Si Joseph n'avait aucun soupçon sur son épouse, en quoi se montrait-il juste en renvoyant celle dont la vertu n'avait souffert aucune atteinte? Il n'est pas possible que Saint Joseph, qui connaissait la sainteté personnelle de son épouse, ait pu penser une seule seconde qu'elle avait été infidèle. Vous voyez. Donc là, il y a un mystère, encore une fois. Mais imaginez, là, on voit la sainte extraordinaire de Sainte Vierge Marie qui se rend bien compte que... Donc elle regarde Saint Joseph, elle se dit, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Alors... elle ne se révolte pas, elle aurait pu dire, l'ange qui devait avertir Saint Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il a raté son train, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle aurait pu paniquer complètement. Et non. Elle voit que Saint Joseph n'est pas au courant, mais elle estime que c'est pas à elle d'informer Saint Joseph, peut-être par humilité sans doute, parce qu'elle avait une telle notion de l'humilité, je suis la servante du Seigneur, avait-elle dit, une telle notion d'humilité que pas une seule seconde elle a voulu même risquer de pécher par orgueil, et pas qu'elle ait Immaculée Conception, donc la moindre pensée d'orgueil lui était absolument interdite. Elle savait très bien, elle n'avait même pas le désir, même pas la tentation de tomber dans cet orgueil. Donc là, encore une fois, l'Église laisse libre l'interprétation au niveau de Saint-Joseph. Donc tout de suite, il y a la réponse qui arrive du ciel. Comme il y pensait, verset 20, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, « Joseph, fils de David, ne craignez pas de prendre avec vous Marie, votre épouse, car ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit. » Donc la Sainte Vierge se garde de s'en mêler elle-même, respecte la volonté de Dieu, qui est manifestement de faire passer Saint-Joseph par des épreuves terribles. Imaginez les épreuves terribles de Saint-Joseph, qui ne comprend pas ce qui se passe peut-être, et qui en même temps connaît l'exquise sainteté, l'extraordinaire sainteté de son épouse, donc il ne dit rien, par humilité aussi. Donc on voit très bien l'humilité de Saint-Joseph et l'humilité de Notre Seigneur Jésus Marie. C'est pour ça qu'on appelle Saint Joseph le grand silencieux de l'Écriture sainte. Le grand silencieux de l'Église, c'est Saint Joseph, parce qu'il n'y a pratiquement pas de mot de Saint Joseph dans l'Écriture sainte. Presque rien. Et donc il y avait ce respect extraordinaire. Donc, ne craignez pas de prendre avec vous Marie, votre épouse, car ce qui est en elle vient du Saint-Esprit. En effet, toutes les prophéties étaient là pour bien indiquer quand on était arrivé au temps où une vierge devait enfanter. Donc, l'ange apparut à Joseph et lui tint ce langage pour trois raisons, disent les pères. Premièrement, afin que cet homme juste ne fît point par ignorance une action mauvaise ou une bonne intention. Deuxièmement, pour l'honneur de la mère du Sauveur, car s'il avait été renvoyé, il n'aurait pas manqué d'être en butte aux soupçons les plus injurieux de la part des infidèles, même si Saint Joseph l'avait renvoyé par panique, si vous voulez, les gens auraient pu très mal le prendre. S'il a renvoyé ça à son épouse, c'est qu'il doit être infidèle, quelque chose comme ça, vous voyez. Enfin, troisième raison, afin que Joseph comprenne combien était sainte cette conception et encore plus de respect qu'auparavant pour sa chaste épouse. Et c'est vraisemblablement ce qui s'est passé. Là, il faut on aura de méditer sur la Sainte Famille et l'amour, la charité extraordinaire qui devait exister dans cette Sainte Famille. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer, vous voyez, de ces textes tout simples. Nous aussi, parfois, il y a des choses qui nous arrivent, on ne comprend pas. Bon, la tentation de révolte est là. Est-ce qu'elle a existé chez Saint-Joseph? Vraisemblablement pas. Mais il n'est pas tombé la tentation de révolte. Pour nous, c'est pareil. Quand il nous arrive parfois certaines choses, la première réaction, souvent pour nous, parce que nous, on ne s'appelle pas Saint-Joseph ou être Saint-Vierge et Marie, souvent la première réaction, c'est de dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une chose pareille ?» Voilà, on commence par aller, il m'arrive telle tuile, « Ah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» On entend ça tout le temps. « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un truc pareil qui m'arrive ?» Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On a péché, voilà ce qu'on a fait au bon Dieu. Bon, et bien, il faut savoir, dans certains cas, si vous voulez, agir un peu comme Marie-Joseph. Et ne pas, Marie-Joseph, ne pas poser de questions. Pas poser de questions, et donner le temps à Dieu, qui décide d'attendre pour que les réponses arrivent. Mais on aurait pu se poser, certainement, on peut donner un autre exemple, c'est le moment des grandes persécutions, quand même, depuis 67, la première persécution, jusqu'à la dernière 313, c'est une persécution terrible, hein. C'est Darras qui parle de 14 millions de martyrs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la quantité astronomique de martyrs que ça fait, surtout à l'époque où la population mondiale était beaucoup plus faible, plus petite qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en comparaison, on peut facilement rajouter un zéro, hein. Mais c'est à peu près ça, 14 millions de martyrs, c'est comme s'il y avait eu 140 millions de martyrs. Bon, on a imaginé un petit peu ce qui s'est passé. Et certainement, au début du deuxième siècle, les gens, certaines personnes auraient pu se poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait le bon Dieu quand, hein? Qu'est-ce que ça? Tous les empereurs sont des persécuteurs. Nous, on est envoyés au lion, on est envoyés en prison, on perd tout. Qu'est-ce qui fait le bon Dieu? Enfin, il nous a oubliés ou quoi? À partir de vacances, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, c'est tous ces martyrs, justement, se sont humiliés dans l'obéissance à une volonté divine qu'ils ne comprenaient pas forcément. Et c'est sûr que beaucoup de, de personnes à l'époque, on se posait la question, mais si ça continue comme ça, il n'y aura plus un seul catholique, ils seront tous morts. Et en fait, lorsque c'est le contraire qui s'est passé, puisque lorsque la persécution était terminée, avec la conversion de l'empereur Constantin, sous l'influence de sa maman, de sa mère, Sainte Hélène, eh bien à ce moment-là, les chrétiens sont sortis des catacombes et se sont rendus compte qu'il y avait encore une quantité invraisemblable, que les chrétiens étaient partout, y compris dans la maison de César. Les propres majordomes de César, c'est-à-dire des empereurs, étaient des chrétiens. Donc vivant dans la demeure du démon, littéralement, comme chrétiens, oui, un petit peu les difficultés pour eux d'être entouré de polythéistes qui adoraient un peu n'importe quoi, tout en gardant l'intégrité morale du chrétien. C'est extraordinaire. Et donc, j'aime bien la troisième raison, là, qui est indiquée en bas de la page 8. Afin que Joseph, comprenant combien des saints, cette conception est encore plus de respect qu'auparavant pour sa chaste épouse. Donc là, encore une fois, l'Église laisse les gens libres dans ce domaine. Verset 21, donc on avance. Quand c'est plus facile, on avance plus vite. Verset 21, elle enfantera un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, là, il y a un beau texte des Pères, page 9 en haut. Page 9, c'est le polycopier. Joseph pouvait penser que, puisqu'il avait été étranger à cette conception, il devait être désormais au devant de la vie conjugale. Donc l'ange le dissuade en lui apprenant que s'il n'a pas été nécessaire à la conception, il le devient pour les soins de la paternité. Donc là, on comprend qu'en fait, Saint-Joseph va avoir un rôle tout particulier, c'est-à-dire le rôle de père nourricier et de protecteur de la Sainte Famille. C'est les titres de gloire de Saint-Joseph. Et on ne se rend peut-être pas assez compte de l'importance de Saint-Joseph, à tel point que Saint-Joseph a certainement un des plus grands titres de l'histoire de l'Église. Il est protecteur de la Sainte Église. Hein? Protecteur et patron. Mais patron, c'est dans le sens de protecteur. Hein? Il ne faut pas le prendre dans le sens fort du terme. Le patron de la Sainte Église, c'est le bon Dieu. Hein? Mais patron, dans le sens de protecteur de la Sainte Église. Hein? C'est là où on voit l'extraordinaire vertu de Saint-Joseph. Alors souvent les gens me demandent, monsieur l'abbé, où est passé le corps de Saint-Joseph? Bon. Alors les pères disent pratiquement tous la même chose, que Saint-Joseph est une des personnes qui a ressuscité entre les morts au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les tombeaux sont ouverts, et beaucoup ont ressuscité entre les morts et ont apparu aux gens de Jérusalem. Eh bien Saint-Joseph devait être l'un d'entre eux. Alors après, il y a un mystère. Son tombeau est inconnu. Est-ce qu'il est resté sur la terre? Est-ce qu'il est remonté au ciel à l'ascension avec notre Seigneur Jésus-Christ? C'est difficile de savoir. Ça, on ne sait pas. Là, il y a un mystère. Donc, c'est là où on voit d'ailleurs l'extraordinaire noblesse de la Sainte Famille. C'est que les trois membres de la Sainte Famille, leurs corps ne sont pas sur terre. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, est au ciel depuis l'ascension. Le corps de notre Sainte Vierge Marie est au ciel parce que c'est le mystère de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie, et le corps de Saint-Joseph n'est pas ici vraisemblablement. Alors encore une fois, l'Église ne s'est, à ma connaissance, jamais prononcée sur ce sujet, sur le lieu de sépulture de Saint-Joseph. Donc est-ce que Saint-Joseph est remonté au ciel avec son corps dès cette époque-là? On ne sait pas. Les pères de l'Église ne se prononcent pas, et l'Église elle-même n'a jamais pris une position sur ce sujet. Donc je pense qu'il faut insister là-dessus. Donc, elle enfantera un fils, et alors il sera indispensable à la mère et au fils, à la mère pour défendre son honneur, au fils pour être son père nourricier, la faire circoncire. Donc ça, j'aime bien cette phrase des pères. Donc le rôle de Saint-Joseph, défendre l'honneur de notre Sainte Vierge Marie. Hein? Et en fait, c'est pas simplement défendre l'honneur de notre Sainte Vierge Marie, c'est aussi défendre son fils, puisqu'il est le père nourricier. Père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc imaginez un peu l'extraordinaire délicatesse d'âme de Saint-Joseph, dont le rôle est d'être le gardien de Dieu. D'accord? Un petit peu comme si quelqu'un était un sacristain qui était en charge du Saint-Sacrement. Quoi. En gros, c'est ça. Donc il avait devant lui un ciboire et le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, c'est son fils, le ciboire, c'est notre Seigneur Jésus-Marie. Et donc, il était en charge de cet extraordinaire mystère de l'incarnation. Et dans la foi, notre Seigneur Jésus-Marie, qui est mère de Dieu, sans être la déesse elle-même, et notre Seigneur Jésus-Christ, qui tout en étant homme, est Dieu par lui-même. Et donc il y a des méditations à faire pour justement augmenter cet amour de Saint-Joseph. La dévotion à Saint-Joseph est importante. Hein. On dit que c'est le grand argentier aussi, le grand argentier de l'Église. Bon, c'est vrai, chaque fois qu'on arrive à des problèmes de finances, en général on passe par Saint-Joseph. C'est toujours une tradition dans l'Église. Les sœurs, elles n'allaient pas par quatre chemins, des tas de couvents comme ça. Quand il y avait des grosses factures à payer, bon, les religieuses qui travaillaient sans salaire, évidemment. Donc elles suppliaient Saint-Joseph de s'en occuper. Et quand ça ne répondait pas assez vite, elles retournaient la statue vers le mur, paf. Donc elles mettaient Saint-Joseph en pénitence pour l'obliger à répondre aux prières assez rapidement. Et Saint-Joseph s'est toujours occupé de son église, de l'église de son, de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le grand argentier. Mais il faut remarquer qu'un détail très important dans l'évangile, c'est qu'on l'appelle aussi le grand silencieux de l'Écriture sainte. Le grand silencieux de l'évangile, parce qu'il n'y a pratiquement aucune parole directe de Saint-Joseph dans l'évangile. D'accord ? Ceci dit, il est là, on n'entend pas, mais il est le chef de famille. Une extraordinaire obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un qui est infiniment en dessous de lui, pareil pour sa mère, quoi. Oui. Bon, c'est un peu le monde à l'envers, le plus saint qui obéit au moins saint. C'est comme ça. Donc il faut méditer cette phrase, elle enfantera un fils, alors il sera indispensable à la mère et au fils, à la mère pour défendre son honneur, au fils pour être son père nourricier et le faire circoncire. Donc il est à la fois père nourricier et protecteur. Et c'est résumé donc dans son titre de gloire qui est patron de l'Église universelle. D'accord. Alors ce sont les grandes fêtes de Saint-Joseph, donc la fête du 19 mars. Donc patron de l'Église universelle, patron de l'Église universelle, et la fête du 1er mai, artisan. Donc on est obligé de suivre. Alors, attention, hein, je profite que je parle un peu de ça là, pour mettre les choses au point là-dessus. Aussi, nous reconnaissons, enfin moi je reconnais le pape Pie XII comme pape, et à partir du moment où on reconnaît le pape Pie XII comme pape, on est obligé de reconnaître ses modifications liturgiques. Hein. Le pape est infaillible dans ce domaine, c'est un domaine dans lequel l'infaillibilité pontificale s'exerce. Donc si le pape a annulé l'ancienne fête avec Octave qui existait de Saint-Joseph au mois de mars, et l'a remplacée par une fête au mois de mai, donc le 1er mai, Saint-Joseph artisan, c'est pas pour rien. Donc il y a l'obligation de la part de tous les catholiques d'accepter cette fête, sauf s'ils peuvent me prouver que Saint-Joseph n'est pas pape. Le passage est que Pie XII n'est pas pape. C'est sur Pie XII que c'est passé, c'est Pie XII qui a changé cette fête, qui a institué la fête de Saint-Joseph artisan. Et ça, c'est à mon avis très important, parce que quand les gens me leur projet, oui, vous savez, on est traditionniste, mais vous dites la messe de Saint-Joseph artisan. Écoutez, Saint-Joseph artisan a été, la fête a été nommée par, a été préparée par Pie XII, jusqu'à preuve du contraire, Pie XII est pape, donc je suis tenu sous peine de péché grave de célébrer la messe de Saint-Joseph artisan. Et quand les gens n'en veulent pas, j'ai écouté, prouvez-moi qu'il n'est pas pape, et après je veux bien célébrer la messe d'avant Pie XII, mais puisque pour le contraire, il est pape. Et c'est la même chose pour la Semaine Sainte. Hein. Moi, je maintiens que Pie XII étant pape, donc, il a modifié les cérémonies de la Semaine Sainte. Donc, on peut discuter de savoir si ces modifications étaient bonnes ou non, on peut discuter de savoir si c'était mieux avant ou mieux après, on peut avoir des états d'âme sur la question, on a le droit d'avoir, de dire moi je préférais la fête d'avant, je préfère enfin, la liturgie d'avant la Semaine Sainte, surtout pour le Vendredi Saint, les changements qui ont été opérés pendant la vigile pascale, etc. Mais quoi qu'il en soit, Pie XII est pape, il a modifié les cérémonies de la Semaine Sainte, il a le droit d'instituer un nouveau rite dans ce cas-là, et il a l'obligation grave de suivre la volonté du pape Pie XII. Sinon, on tombe dans le schisme. On tombe dans le schisme. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec les groupes de la tradition. Il y en a beaucoup qui prétendent. Ils font exactement. Ils tombent dans la même erreur que Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre qui dit Jean XXIII est pape, mais on est obligé de faire un tri dans ce qu'il dit. Ce qui est bon, on garde. Ce qui est mauvais, on rejette. Ce qui n'est pas admissible. Pourquoi la Mgr Lefebvre avait tort? Pourquoi? parce que le pape est infaillible dans le dogme et dans la morale. Quand il parle en tant que pape avec intention d'obliger toute l'Église, ce qui était le cas, donc il est évident que le pape ne peut pas demander infailliblement quelque chose de faux ou de mauvais. Donc on a l'obligation de suivre. Donc si on reconnaît que malheureusement il y a des choses qui sont effectivement mauvaises, inadmissibles dans l'enseignement de Jean 23, c'est qu'il n'est pas pape. Bon, c'est clair. D'accord ? Mais il faudrait peut-être que les gens qui refusent la Semaine Sainte de Pie XII aient le courage d'aller jusqu'au bout de leurs opinions. Donc ils vont refuser la nouvelle Semaine Sainte de Pie XII en disant « Ah non, nous on suit avant, la liturgie d'avant Pie XII. » Quand on leur demande « Mais alors, Pie XII, il est pape ou non ?»« Ben oui, il est pape. »« Ben attendez, et vous prétendez qu'il est pape et vous faites comme Monseigneur le fait, vous choisissez, ça me plaît, je garde, ça me plaît pas, je garde pas. » C'est inadmissible. Pour ça, moi, j'ai toujours célébré la semaine sainte de Pie XII. La missel que j'ai à l'hôtel, là, c'est la missel de Pie XII, de 1958 ou 59, parce qu'il n'y a pas eu de changement en 58. Mais en 59, donc missel de 58, et puis on suit la liturgie. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? On introduit le subjectivisme. Subjectivisme en matière liturgique, c'est très très dangereux. Et on en fait qu'à sa tête. Ça, je garde, ça me plaît. Ça, je garde pas, ça me plaît pas. Ah non. Donc là, il faut faire attention, à mon avis, à respecter un petit peu, avoir ce respect pour le pape, pas simplement un respect purement intellectuel, mais un respect pratique. Donc, si à partir du moment où on reconnaît Pie XII comme pape, on est tenu de suivre ces modifications liturgiques. Alors, je sais que je ne me suis pas fait que des amis en lisant ça, surtout ça va être passé sur Internet, c'est qu'ils ne vont pas être contents du tout, mais tant pis. Mais tous les groupes américains, c'est les anti-vacantistes qui disent prétendre reconnaître Pie XII comme pape, mais lui désobéissent tout le temps. Le groupe de l'Americosa aussi en Italie, comment il s'appelle là, j'oublie toujours leur nom. Donc le groupe de l'Americosa qui c'est les vacantistes, plus ou moins c'est les vacantistes en Italie, qui pareil prétendent que Pie XII est pape. Mais dans la pratique, ils ne font qu'à leur tête et ils obéissent tranquillement. Ça, c'est inadmissible. Seulement inadmissible. Donc, faire attention à ça. Donc, revenons à nos moutons. Je crois que ce n'était pas hors sujet, puisque le texte sacré parle de Saint Joseph. Alors, nous en sommes maintenant au verset 22, page 9. Saint Matthieu, chapitre 1er, verset 22. Or, tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc ça, c'est une prophétie d'Ancien Testament, surtout de Michée. Donc, alors là, il y a un petit problème qui se pose, c'est que on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a ce double nom, Emmanuel. Alors, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus, c'est Emmanuel. Et alors voilà ce que disent les pères. Donc Emmanuel, on utilise le mot Emmanuel comme une explication du sens du mot. Donc Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. D'accord ? Donc ce nom Emmanuel, disent les pères, exprime parfaitement les deux natures, la nature divine et la nature humaine, unies dans la même personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, engendré avant tous les siècles d'une manière ineffable par Dieu son Père, est devenu à la fin des temps, en naissant d'une vierge, Emmanuel ou Dieu avec nous. Donc c'est un état de fait. Emmanuel, il ne faut pas le prendre, si vous voulez, comme un nom, le prénom, mais comme une manifestation d'un état de fait. Voilà, c'est un titre de noblesse, si vous voulez. Titre de noblesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Emmanuel, c'est-à-dire qu'il est Dieu avec nous. Ça veut dire, quand le texte sacré dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire que cette personne qui prend ce titre d'Emmanuel, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, est Dieu. Dieu avec nous, c'est ça.
Ah, c'est pas parce que le démon le reconnaisse trop facilement aussi.
Ça, c'est aussi une autre raison, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est ça, c'est que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc, c'est une proclamation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ ayant une double nature, nature humaine, nature divine. Là, encore une fois, faire attention à ce qu'on dit, il faut pas. C'est d'imaginer, c'est encore un grand mystère, imaginer une espèce de mélange dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, la divinité de l'humanité. Il n'y a pas de mélange. Il est parfaitement Dieu, il est parfaitement homme dans la même personne. Donc, la personne est divine parfaitement et humaine parfaitement. Comment une telle possibilité, une telle chose est-elle possible? Là, c'est un mystère insondable. C'est le mystère de l'incarnation. Vous voyez? Alors, Donc je pense qu'il faut prendre le mot Emmanuel non pas comme un prénom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais une explication du dogme. D'accord ? Donc ce nom « Dieu avec nous », disent les Pères, peut s'entendre en ce sens qu'il est devenu comme un des nôtres. Dieu avec nous, donc il y a deux choses, il y a Dieu et nous. Dieu avec nous, nous, ça représente l'humanité, et Dieu, ça représente la divinité. Donc il est vrai Dieu, vrai homme. Dieu avec nous peut s'entendre en ce sens qu'il est devenu comme un des nôtres, c'est-à-dire passible, mortel, semblable à nous en toutes choses, à l'exception du péché, bien sûr, ou bien encore qu'il est uni à sa nature divine en unité de personne, notre pauvre personne humaine. Donc il y a un seul mot qui représente le mystère de l'incarnation. Emmanuel, c'est donc un symbole, le mot Emmanuel, c'est un symbole du mystère de l'incarnation. Dieu avec nous, donc il est Dieu, nature divine, il est homme avec nous, nature humaine, dans la même personne. Alors comment le nom de Jésus peut-il être le même que le nom d'Emmanuel ? Tertullien répond, Tertullien encore un père de l'Église, que c'est le même nom par le sens comme différent par le son. En effet, Dieu doit être avec nous comme sauveur, signifie que Dieu doit être avec nous. Que Dieu doit être avec nous comme sauveur signifie que Jésus doit être avec nous. Il n'y a personne d'autre que Dieu ne peut être notre sauveur. Vous voyez ? Donc c'est l'affirmation de plusieurs choses à la fois. D'abord l'humanité de notre Seigneur, puis la divinité de notre Seigneur, puis le caractère de sauveur universel. D'accord ? Alors ensuite, les pères vont donner le sens anthropologique. Anthropologique, rappelez-vous, c'est le sens moral, donc l'application pour chacun d'entre nous. Donc là, il y a quatre... Dans les différents textes des Pères, j'en ai choisi quatre importants. Donc, premièrement, Dieu est avec nous, non seulement par essence, présence, présence et puissance, je vais expliquer, créé dans toutes et chacune des créatures, mais par l'incarnation, il est aussi avec nous, vraiment, proprement et réellement, comme un frère vivant et parlant avec nous dans la nature humaine assumée par lui. Il est vraiment homme. Donc, puisqu'il est vraiment homme, nous devenons frères adoptifs de Dieu. Frères adoptifs du Christ qui est homme. Donc, en quelque sorte, par son incarnation, Dieu peut littéralement saisir par la peau du cou chacun des hommes que nous sommes, pécheurs que nous sommes, et les monter vers lui, parce que justement, par cette nature humaine, en quelque sorte, il s'unit à nous. Oui.
Est-ce qu'il est avec tous les hommes ? Parce que bon, il y a l'Eucharistie qui fait qu'on est en union.
Ah, attention, c'est une façon d'expliquer. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir... Fais attention, on peut utiliser cette phrase que je viens de dire dans un sens complètement hérétique et dans un sens catholique. Les modernistes utilisent un sens hérétique en disant que par son mystère, c'est ce que disait déjà Jean-Paul II, puis même déjà Paul VI, Jean-Paul II, après Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, puis après Benoît XVI et maintenant encore plus François. Ils reprennent un texte du Vatican II qui dit par son incarnation, Dieu s'est uni à tous les hommes. Alors, c'est vrai d'un certain côté, mais c'est ça le danger des textes de Vatican II, c'est que beaucoup des textes de Vatican II sont équivoques. Ils peuvent être pris dans un sens vrai et dans un sens faux. Par son incarnation, Dieu s'est uni à tous les hommes. C'est vrai dans le sens que Dieu a pris la nature humaine, mais c'est toujours interprété de travers par les modernistes qui vont dire « Par son incarnation, Dieu s'est uni à tous les hommes, donc tous les hommes sont devenus Dieu par l'incarnation. » Ce qui est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Dieu a vraiment pris notre nature humaine. C'est pour ça qu'il y a le terme « Dieu avec nous ». C'est ça le drame, si vous voulez, le drame de la Nouvelle Messe, le drame aussi de Vatican II, c'est que ce sont très souvent des textes équivoques. Alors qu'en principe, un texte catholique, dans un catéchisme catholique, ne peut pas être équivoque. Il n'y a pas de texte équivoque, par exemple, dans le catéchisme du Concile de Trente, dans le catéchisme de Saint-Pilice. Mais il y a des tas de choses équivoques dans les textes de Vatican II. Voyez, et c'est ça le danger de Vatican II. C'est un des dangers, il y a aussi des hérésies ouvertes, mais il y a beaucoup de textes qui sont équivoques. C'est-à-dire que ça permet, si vous voulez, à celui qui veut absolument interpréter de façon catholique, en tirant les choses, il arrive encore à interpréter de façon catholique. Mais en même temps, on ouvre une porte pour que tous les ennemis de l'Église puissent rentrer, tout détruire de l'intérieur, c'est ce qui s'est passé. Donc là, il faut faire attention. Alors, expliquons un petit peu ces points-là. Donc, premier point, Dieu est avec nous par essence, présence et puissance. Donc, ce texte est en fait un texte de saint Thomas d'Aquin. Au début de la somme, la présence de Dieu parmi nous. Donc, Dieu est présent par son essence, par sa présence, sa puissance, dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par sa présence, ça veut dire qu'il est partout. Par sa puissance, ça veut dire qu'il peut tout. Et par son essence, ça veut dire qu'il est cause de tout. Les trois mots philosophiques utilisés par saint Thomas. Essence, présence, puissance. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il est dans toutes et chacune des créatures. Notre Seigneur Jésus-Christ est en nous, par, d'une certaine façon, par notre âme. C'est notre âme qui fait la différence entre un animal non raisonnable et un animal raisonnable que nous sommes. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ vit effectivement en nous par le simple fait que nous sommes, que nous existons. C'est Dieu qui nous maintient dans l'être. Et non seulement il nous crée, mais il nous maintient dans l'être. Il ne se contente pas de nous créer après nous balancer tout seul. Non, il nous crée, donc par sa présence, si vous voulez, il nous crée, par sa puissance plutôt, il nous crée, la toute puissance de Dieu. Et il est encore présent en nous, en nous maintenant en vie. Dieu nous maintenant en vie. Si Dieu ne pensait pas à nous dans le mystère de son amour pour nous, nous serions complètement annihilés immédiatement. Vous voyez ? Et il est cause de essence, ça veut dire il est cause de l'être. Dieu est par nous, non seulement par sa présence, parce qu'il est partout, puissance, il peut tout, essence, il est cause de tout. Le Seigneur est cause de tout. Donc par cette incarnation, il est aussi en nous. C'est-à-dire, il s'unit, c'est vrai qu'on peut dire que par son incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ s'unit à notre humanité, c'est évident. L'incarnation, c'est l'union de sa divinité avec notre humanité. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi la nôtre, attention. Donc, de façon générique, c'est la nôtre. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il va s'unir avec nos péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ s'unit à tout, toute l'humanité, sauf le péché, bien entendu. Alors, vous voyez, ce sont des textes qui sont très dangereux. Ce texte de Vatican II que je vous citais, par son incarnation, Jésus, notre Seigneur, s'est uni à tous les hommes. Et c'est dangereux parce que c'est très facilement interprétable de façon moderniste. C'est comme quand on dit, c'est dans le texte de la Genèse, que notre Seigneur Jésus-Christ a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Bon, alors beaucoup de gens peuvent interpréter de façon complètement moderniste en disant on a été créé à l'image de Dieu, donc on est Dieu. Ben non, à son image et à sa ressemblance. On est créé à l'image de Dieu parce qu'on a une âme raisonnable, contrairement à un chat ou un chien. Et on est créé à la ressemblance de Dieu parce que Dieu a mis en plus chez certains hommes la grâce sanctifiante, l'étincelle de la grâce. Et la grâce sanctifiante, c'est la charité. Donc c'est en fait Dieu lui-même qui vit en nous par la grâce sanctifiante. Donc Dieu vit en nous de deux façons. Il vit dans tous les hommes le fait que nous avons une âme. Tous les hommes sont créés avec une âme, avec comme puissance, la mémoire, l'intelligence, la volonté, l'irascible, les concupiscibles, etc. Ça, tous les hommes sont comme ça. Donc Dieu est dans tous les hommes parce que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu par leur âme. Mais Dieu n'est pas dans tous les hommes par sa ressemblance, parce que seuls ceux qui sont en état de grâce peuvent prétendre être enfant de Dieu. C'est pour ça que celui qui est passé maître dans ses explications loufoques, c'est Bergoglio, qui va toujours utiliser des termes en tirant. On peut encore les prendre de façon catholique, mais lui, il les prend de façon complètement hérétique. Par exemple, quand Bergoglio dit que les musulmans sont des enfants de Dieu, bon, comment, qu'est-ce que ça veut dire enfant de Dieu? Alors le moderniste va dire, ça veut dire que les musulmans sont les créatures de Dieu. Ça c'est vrai. Mais quand on utilise le mot enfant de Dieu, en français, ça a un sens très précis. Parce que le catéchisme nous dit que c'est le baptême qui fait de nous, qui donne le caractère d'enfant de Dieu. Hier, quand j'ai baptisé deux adultes, là, je leur ai dit, attention, il y avait le sacristain moderniste. On m'avait prêté une magnifique église pour faire ce baptême, le sacristain moderniste, il ouvrait des yeux ronds. Parce que j'ai pas cité le nom Bergoglio, mais j'ai dit, ceux qui racontent qu'on est tous enfants de Dieu racontent n'importe quoi, parce que c'est justement le baptême qui fait de vous des enfants de Dieu. Donc ceux qui ne sont pas baptisés ne sont pas des enfants de Dieu. Alors si on prend le mot enfant de Dieu dans le sens large de créature de Dieu, alors oui, on est tous enfants de Dieu dans ce sens-là. Mais les catéchismes ont toujours précisé les choses, enfants de Dieu, par le baptême. Donc le caractère, c'est le catéchisme qui dit bien, le caractère du baptême fait de nous des enfants de Dieu. comprends? Donc on est enfant de Dieu, pas fils de Dieu, par adoption. D'accord? Donc deuxième chose, c'est le Père de l'Église. Donc il est avec nous comme la tête avec les membres, car le Christ, comme la tête des fidèles, provoque en eux le sens spirituel et le mouvement qui est direction et le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu, et dans notre nature humaine, le cerveau va diriger le corps. D'accord? Tous les mouvements que nous faisons, tout vient du cerveau. Bon. C'est pour cela que les anciens, et on peut toujours le dire aujourd'hui, disaient que le siège de l'âme, c'est le cerveau. En fait, c'est un peu dangereux de dire ça comme ça, parce qu'en fait, là, l'âme est partout. Vous ne pourrez pas croire que l'âme est simplement dans le cerveau et qu'à côté, du cerveau, il n'y a plus d'âme. Non. Toutes les cellules, chaque cellule du corps humain, en fait, est maintenue vivante par l'existence d'une âme. N'oublions pas que l'âme humaine est une âme, en quelque sorte, qui a trois niveaux. Il y a un niveau végétatif, comme les arbres, par exemple. Les arbres, ils ont... En philosophie, on dit qu'un arbre, il a une âme végétative. Bon, faites attention au terme qu'on utilise, parce qu'en français, quand on parle du mot âme, on parle d'une âme, substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, donc d'une âme humaine. Mais en philosophie, on dit que, par exemple, qu'un arbre a la vie. Un arbre est vivant, contrairement à un rocher. Un rocher n'a pas de vie. Bon, mais un arbre a une vie. Il va croître. Il va grandir en taille, il va donner des feuilles, il va donner des fleurs, il va donner des fruits. Donc, il y a une vie de l'arbre. Cette vie, elle ne peut pas exister, la vie ne peut pas exister sans l'existence d'une âme. Donc là, c'est une âme purement végétative. Donc, mais par contre, il n'y a pas de sensation. Si vous brûlez une feuille d'arbre, vous brûlez un fruit de l'arbre, vous cassez une branche, l'arbre ne souffre pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'une âme, une âme végétative. Prenez un chien, par exemple, ou un chat. Bon, eh bien, alors là, on passe à une âme avec une deuxième couche, si vous voulez, dans le sens moderne du terme. Et c'est pas simplement une âme végétative, elle est aussi sensitive. Donc, il va non seulement vivre, âme végétative, mais sentir. Donc, avoir des sensations. Un animal qui est blessé va souffrir physiquement. Et donc, ça, c'est l'âme sensitive. Et l'homme va arriver avec une troisième entité, si vous voulez, qui est toujours la même âme, mais cette âme sera aussi une âme raisonnable. Quand on parle de l'existence de l'âme pour un homme, on parle toujours de l'âme raisonnable. Mais il ne faut pas oublier que cette âme raisonnable de l'homme est aussi une âme sensitive et une âme végétative. Il y a trois. D'accord? Alors ça, c'est complètement déformé, par exemple, et c'est fait partie des erreurs du Nouvel Âge. Le Nouvel Âge parle toujours de l'âme d'un arbre, mais pour eux, ils considèrent pratiquement l'âme comme ayant une âme raisonnable. Vous voyez, parce que pour eux, l'âme, c'est l'âme de l'arbre, alors c'est la déesse nature, la déesse Gaïa, toutes ces imbécilités du Nouvel Âge. D'accord? Donc, il y a une union entre la tête et les membres. Donc, nous devenons membres du Christ. Nous sommes membres du Christ de deux façons. Nous sommes membres du Christ de façon naturelle, dans le sens que nous avons une nature humaine qui nous est donnée par le Christ, qui nous est donnée par Dieu. C'est Dieu qui nous a donné notre nature humaine. Mais nous sommes membre du Christ d'une façon encore plus belle par l'union spirituelle surnaturelle avec lui par l'état de grâce pour ceux qui sont baptisés et qui vivent en état de grâce. D'accord? Troisième point, le Christ en s'incarnant est avec nous dans la Sainte Eucharistie. Donc, toujours page 9 du polycopier. Donc, le Christ en s'incarnant est avec nous dans la Sainte Eucharistie, comme devenant notre nourriture, nous nourrissons avec sa propre chair, et nous abreuvant avec son propre sang. Donc, oui, on voit qu'il y a différentes significations du mot union, de l'union qui existe entre Dieu et nous chez les pères de l'Église. Donc l'union avec la Sainte Eucharistie, c'est une union surnaturelle, une union spirituelle. Donc, pas la Sainte Eucharistie, on peut vraiment dire que la Sainte Eucharistie nous nourrit. Lorsque j'avale quelque chose de physique pour nourrir mon corps, je vais transformer la chose que je viens d'avaler dans mon estomac, je vais transformer ça en mon propre corps parce que ça va augmenter mon volume sanguin, ça va augmenter mes muscles, ça va être utilisé pour faire tourner l'usine magnifique qu'est le corps humain. D'accord? Eh bien, c'est la même chose sur le plan surnaturel. Quand je communie à l'état de grâce, je nourris mon âme véritablement, substantiellement, avec le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Saint Augustin est allé jusqu'à dire: Dieu devient homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Ça, c'est l'exemple typique d'une phrase qui est magnifique, mais qui est dangereuse. l'homme devient, Dieu devient homme pour que l'homme puisse devenir, devenir Dieu. Bon, ça peut être interprété dans un sens complètement panthéistique, en disant que Dieu, si Dieu devient homme, l'homme devient Dieu, donc l'homme est Dieu. Ben non, l'homme n'est pas Dieu. Il devient, il se divinise par la Sainte Eucharistie. Bon. Enfin, quatrième point, le Christ moralement est avec l'Église comme l'époux avec l'épouse, l'assistant, la protégeant, la soutenant, l'embellissant et la rendant féconde. Donc, ce n'est pas simplement une union, si vous voulez, de notre Seigneur Jésus-Christ avec le Père et le Saint-Esprit dans le sein de la Sainte Trinité. Il y a aussi une union avec les enfants des hommes par le baptême. Nous devenons véritablement fils de Dieu par le baptême. Mais il n'y a pas simplement une union par la Sainte Eucharistie, il y a une union aussi en tant qu'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ est tête de l'Église. Donc, c'est lui qui donne à l'Église sa vie spirituelle, sa vie surnaturelle. C'est-à-dire qu'on compare le rapport du Christ avec l'Église, c'est les pères de l'Église qui font tout ça, comme le rapport d'un époux avec son épouse. Donc l'époux aime l'épouse comme le Christ a aimé son Église. Et c'est pour ça que dans le texte sur le mariage, donc on dit, on utilise toujours ce texte de Saint Paul magnifique, où il est dit entre autres que notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un mari doit aimer son épouse comme le Christ a aimé son Église. Et comment le Christ a-t-il aimé son Église? Le Christ a aimé son Église en mourant pour elle sur la croix. Donc il faut bien être conscient de ces choses-là. Vous voyez? Donc le Christ moralement est uni à l'Église catholique comme l'époux avec l'épouse. Hein? Et donc il y a un devoir d'assistance de Dieu, surtout par l'intermédiaire du pape. C'est pour ça que Dieu a donné au pape légitime, au pape véritable, le privilège de l'infaillibilité, l'assistant, la protégeant, la soutenant, l'embellissant, la rendant féconde. Donc toute la beauté de l'Église vient de cette union morale du Christ avec son Église. On va terminer donc la page 9, comme ça on aura terminé avec le chapitre 1er, puisque la page 10, on commence le chapitre 2. Donc, dernier verset du premier chapitre de Saint Joseph, l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24. Joseph, réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit son épouse avec lui. Et il ne l'avait point connue quand elle enfanta son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Donc, obéissance immédiate de Joseph. Donc là, il y a un texte de Saint Rémy, justement, qui marque bien cette vertu d'obéissance. Saint Rémy nous dit que la vie nous est revenue par la porte qui avait donné passage à la mort. La mort, c'est la désobéissance. La vie, c'est l'obéissance. La désobéissance d'Adam nous avait tous perdus, c'est le péché originel. L'obéissance de Joseph commence à nous ramener à notre premier état. Et donc la vertu, on voit très bien que la vertu particulière de tous les saints, c'est l'obéissance. L'obéissance, pas simplement à l'Église, pas simplement à notre Seigneur Jésus-Christ, mais l'obéissance tout simplement à ce qu'a fait l'Église pendant 20 siècles. Ce n'est qu'après son divin enfantement qu'il l'a connue parfaitement. C'est alors qu'elle lui devint plus précieuse et plus chère que le monde entier parce qu'elle avait porté dans l'étroit espace de son sein virginal celui que le monde entier ne peut contenir. Donc, il est évident que le mystère de l'incarnation qui va s'accomplir avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ le soir de Noël, eh bien, va augmenter de façon exponentielle le respect de Saint Joseph pour son épouse. Vous voyez? Donc là, on peut méditer justement sur ces deux vertus essentielles. C'est cette vertu essentielle qui est l'obéissance. Et le danger de la désobéissance. Le modernisme, c'est quoi? C'est une désobéissance. Le marxisme, c'est quoi? C'est une désobéissance. La révolution, c'est quoi? C'est une gigantesque désobéissance. Donc tout passe par l'obéissance. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est pour ça qu'il est capital que les enfants apprennent à obéir. Et c'est bien triste parfois de voir, même dans certaines très bonnes familles catholiques, les parents qui sont beaucoup trop faibles avec leurs enfants, qui tolèrent des désobéissances invraisemblables. Oui. Donc il faut obéir pour s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis toujours cette phrase, je me répète ça va être beaucoup, mais que malheur aux enfants qui n'ont jamais appris à obéir, c'est la pire catastrophe qui puisse leur arriver. Un enfant qui n'a jamais appris à obéir, c'est une catastrophe. Et on voit très bien dans le monde moderne, si les hommes modernes, encore une fois, souvent dit, sont devenus des nouilles, c'est parce qu'ils ont jamais appris à obéir. Il n'y a plus d'obéissance. Bon, alors maintenant, donc on a terminé le chapitre 1, donc je conseille beaucoup à ceux qui écoutent sur Internet, donc quand on a fini un chapitre comme ça, relisez le chapitre entier de Saint Matthieu, enfin, chapitre 1 de Saint Matthieu, et éventuellement de reprendre certains points. Et une fois qu'on a terminé un chapitre, comme ça on relit le chapitre tranquillement, et à ce moment-là, en utilisant toutes les explications que j'ai données à partir des pères pour justement essayer de comprendre, je dirais, la moelle même du chapitre en question. Donc mardi prochain, si Dieu veut, nous commencerons donc le chapitre 2 de Saint Matthieu. Donc aujourd'hui on est combien? On est 20, non?
Le
20, voilà, 20 février. Donc, si Dieu veut, prochain cours, mardi prochain. Donc, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez pour nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Saint Jérôme,
priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.